Nous sommes si reconnaissants de pouvoir nous réunir et nous asseoir ensemble sous l'écoute de la parole. Quel endroit pourrait-on choisir pour être ce soir? Que pourrait-on préférer pour aller d'ici à là? Aucun. Aucun autre endroit, je crois. C'est une grâce indescriptible que de pouvoir se réunir pour écouter la parole de Dieu. Et pas seulement cela. Comme cela a déjà été dit, pour que la foi vienne dans nos cœurs et que Dieu puisse confirmer cette foi en sa parole. Nous ne venons pas seulement en tant qu'auditeurs et spectateurs. Nous venons en tant que personnes qui expérimentent Dieu, qui vivent Dieu, qui veulent vivre avec lui ce qu'il a promis, expérimenter avec lui ce qu'il a promis. Les paroles qui ont été lues sont toutes merveilleuses. On ne peut rien ajouter. Dans Osée, nous l'avons tous compris. Au chapitre 4, verset 1, il est écrit déjà, écoutez, Osée 4, verset 1, écoutez la parole de l'Éternel, enfant d'Israël, car l'Éternel dresse une accusation contre les habitants du pays. Parce qu'il n'y a plus de fidélité, plus d'amour, plus de connaissance de Dieu dans le pays. Voilà les motifs d'accusation que Dieu a adressés. Puis vient le verset que nous avons déjà entendu, le verset 6. Et mon peuple est voué avec eux à la destruction faute de connaissance. Je crois que nous pouvons dire, et ce de tout notre cœur, que la connaissance de Dieu et de sa parole ne nous fait pas défaut. Nous ne devrions pas en manquer. Dieu nous a abondamment instruits, il a distribué sa parole. Et si ici, par exemple, comme notre frère l'a déjà mentionné, frère Branham s'est référé à Osée 6 et à ces deux jours, un jour auprès de Dieu est comme nos 1000 ans. Et lorsque ces 2000 ans destinés à l'Église du Nouveau Testament arriveront à leur fin, Dieu se tournera de nouveau vers le peuple d'Israël et ils seront guéris et se réjouiront le troisième jour en leur Dieu qui leur procurera le salut. Nous savons que les paroles prophétiques trouveront toutes leur accomplissement et auront leur place dans l'ensemble du plan de Dieu. Mais lorsqu'il est écrit ici, dans Osée 5, verset 15, je m'en irai, je retournerai à ma demeure jusqu'à ce qu'ils se sentent coupables et qu'ils cherchent ma face. Quand ils seront dans la détresse, ils auront un désir sincère envers moi. S'il y a jamais eu un temps où la détresse était grande, c'est maintenant. Et si nous désirons sincèrement que Dieu vienne à nous, vous savez, et qu'il reçoive ce qui lui revient de plein droit. Vous savez, j'ai si souvent pensé à cela pendant environ 30 ans, que vont dire les gens. J'étais un homme qui ne faisait que penser que va dire celui-ci, que va dire celui-là. Mais depuis le 1er janvier de cette année, lorsque je suis arrivé à l'heure de la mort, pour ainsi dire, tout ce que les gens allaient dire ou penser n'était plus demandé. Seule une phrase sortait encore de mes lèvres, ou du moins très doucement. Seigneur, comment me tiens-je devant toi? Dans quel état je suis devant toi? Nous pouvons demander 100 fois, que disent les hommes, que pensent les hommes, et cela ne nous aidera pas. Comment nous tenons-nous devant Dieu? Comment Dieu te voit-il? Comment me voit-il? C'est ça qui compte. Nous avons déjà entendu et lu dans l'Épître aux Corinthiens, et nous y reviendrons, que nous ne connaissons plus personne tel qu'il est, selon la chair, mais pourquoi? Parce que nous avons été reconnus par Dieu. Nous nous reconnaissons en esprit, dans l'esprit. Mais ici, il est dit que nous devons le désirer sincèrement, lui, avoir des désirs sincères envers lui, puis le chercher, lui, Dieu. Et il est dit ici, et ils se tourneront à nouveau vers moi, et ils se tourneront de nouveau vers nous. Il se tournera, donc Dieu, lui, se tournera vers nous. Ensuite, chapitre 6, verset 1. Osée 6, 1 maintenant. Venez, revenons à l'Éternel, car il nous a déchirés et il nous guérira. Il nous a frappés et il nous pansera. Au verset 2, déjà après deux jours. Comme nous l'avons dit, il s'agit d'une parole prophétique ici. Mais toute parole de Dieu est inspirée par le Saint-Esprit et est utile à l'instruction et à l'édification de l'Église du Seigneur. Et il est dit ici, ensuite, au verset 3. Parvenons donc à la connaissance, à la recherche de la connaissance de l'Éternel. Il y a en effet deux sortes de connaissances. Il y a la connaissance humaine et la connaissance divine. Et la connaissance humaine ne manque pas du tout, n'est-ce pas? Chacun a sa propre connaissance, et ce, dans une large mesure. Mais ici, il s'agit de la connaissance de Dieu. La poursuite de la connaissance du Seigneur. Et comme notre frère l'a déjà dit, Paul l'a exprimé, je veux le connaître, et connaître la puissance de sa résurrection et déjà en faire partie et participer à ses souffrances. Ensuite, il est dit ici comme une promesse, au verset 3, la deuxième partie. Il apparaîtra aussi sûrement que la lumière du matin, donc Osée 6, verset 3, la deuxième partie, et viendra sur nous comme la pluie de l'arrière-saison qui arrose la terre. Pas d'incertitude dans la parole de Dieu, pas de vaines promesses, mais la parole de Dieu est vraie, est véritable, et ce qu'il a dit est certain. Nous pouvons nous y fier à 100%, même la pluie de l'arrière-saison, et tout ce qui s'y rapporte, Dieu le fera en son temps par grâce. Ensuite, il y a la parole dans l'Épître aux Corinthiens, concernant le fait de se déshabiller et de se revêtir. Vous savez ce que cela signifie. Donc, ici, se déshabiller, bon, se dépouiller et se revêtir. Ça, c'était 2 Corinthiens 5. Vous savez ce que cela signifie. Paul a attendu l'enlèvement. Il n'a pas attendu de mourir encore, mais d'être immédiatement revêtu, transformé, changé et amené dans la gloire. Mais il y a un verset que nous ne pouvons ni ignorer, ni négliger dans ce contexte. 2 Corinthiens 5, maintenant c'est le verset 5. Si nous attendons l'enlèvement. 2 Corinthiens 5, verset 5. Or, celui qui nous a justement préparés pour cela, ou bien comme Luther le dit dans sa traduction, celui justement qui nous revêtit pour cela, c'est Dieu qui nous a donné l'Esprit en signe de garantie. Donc ce n'est pas un homme qui pourrait s'y rendre apte lui-même ou se préparer lui-même, mais celui qui nous y rend apte et nous prépare, nous revêtit et nous y prépare, c'est Dieu. Et où Dieu prépare-t-il? Où est-ce qu'il le fait? Sous l'écoute de sa parole. Comment Dieu prépare-t-il? Lorsque nous croyons en sa parole et que nous donnons de l'espace à son esprit pour qu'il puisse agir. La préparation ne peut pas se faire de manière théorique, mais doit se faire par son esprit que nous recevons comme signe de garantie. Je crois que cette parole est très claire. Or, celui qui nous a justement préparés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné l'esprit en signe de garantie. Comme un gage. Bien-aimés, nous ne pouvons pas nous en passer et nous détourner de ces choses. Nous avons besoin de l'heure et du jour, et ce, du premier au dernier, où nous recevons un tel baptême du Saint-Esprit qu'il n'y aura absolument plus aucun doute à ce sujet. Qu'il n'en reste plus un seul qui doive encore se demander « Est-ce que je l'ai reçu ou est-ce que je ne l'ai pas reçu ?» Que tous sachent qu'ils l'ont reçu. Les 120 personnes dans la chambre haute. N'importe qui aurait pu leur demander. Ils étaient là, ils l'ont expérimenté, ils l'ont reçu. Aucun Dieu s'est demandé s'il avait reçu ou pas. Et c'était fini pour eux. Dieu avait répondu. Mais tant que nous sommes encore dans le doute, nous risquons de ne pas encore avoir fait cette expérience. Et si nous ne l'avons pas faite, la parole que nous avons entendue ne pourra pas pénétrer jusqu'à produire en nous la vie de Dieu lui-même. Et la foi vivante que nous aimerions avoir ne sera pas là comme elle devrait l'être. Il est écrit, la lettre tue, l'esprit donne la vie, crée la vie. Mais si la parole est plantée en nous, alors l'esprit doit aussi entrer en nous pour rendre vivante la parole plantée, la féconder, la faire naître à la vie, la manifester. Mais manifester la vie, mais c'est une parole glorieuse. Ce n'est ni toi, ni moi, ni tes efforts, ni les miens. Or, celui, il relit le verset 5 de 2 Corinthiens 5, qui nous a justement préparé pour cela, c'est Dieu. En nous donnant l'esprit en signe de garantie comme un gage. Ce n'est pas toi ni moi, c'est Dieu qui opère en nous les deux, le vouloir et le faire, et l'accomplir et le faire. Au verset 6, l'apôtre dit, 2 Corinthiens 5, verset 6, « Nous avons donc en tout temps bon courage, sachant que tant que nous avons notre maison dans le corps, nous vivons loin du Seigneur à l'étranger. » Et il décrit aussi l'état du corps, que dans ce corps nous y soupirons et que nous voudrions émigrer. Mais nous vivons encore dans la foi et non dans la vue des choses. Mais si nous voulons voir ce que nous croyons ici, alors la puissance vivifiante de l'Esprit de Dieu lui-même doit habiter dans nos corps mortels afin que nos corps puissent être rendus vivants. Romains 8, verset 11, la parole de Dieu ne nous montre pas d'autres possibilités. Il y a ici quelques pensées merveilleuses dans lesquelles nous pourrions nous plonger, sur lesquelles nous pourrions nous attarder. Il voulait être avec le Seigneur, Paul, auprès du Seigneur. Qui ne le voudrait pas? Je pense que si je posais la question ce soir, et qui veut encore rester sur la terre et qui veut entrer dans la gloire, c'est certainement où ce serait la même réponse de la part de tous. Seulement rentrer par les portes de perles dans la gloire céleste. Nous n'avons pas de lieu de séjour ici-bas, mais nous cherchons celui qui est à venir. Cela signifie que le Seigneur l'a déjà préparé pour nous et qu'il reviendra nous chercher pour nous ramener dans sa gloire céleste. Nous n'avons pas de lieu de séjour ici-bas. Maintenant ensuite le verset 14, 2 Corinthiens 5, verset 14. Après avoir dit plus haut que nous avons reçu l'Esprit, il dit sur verset 14, « Car l'amour du Christ nous réclame et nous tient en son pouvoir, parce que nous nous laissons guider par la conviction. Un seul est mort pour tous, par conséquent, ils sont tous morts. » Le verset 15, « Et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Cela aussi est une parole très sérieuse. Si le Christ est mort pour nous et nous a amenés à une vie nouvelle, nous ne devons plus vivre pour nous-mêmes, mais pour lui. Et si nous nous posions la question, comment toi et moi pouvons-nous vivre pour lui réellement? Nous savons que lorsque notre Seigneur marchait ici-bas, il ne pensait jamais à lui. Il se souciait du peuple. Il était désolé pour eux. Il voyait les malades, il voyait les perdus. Ses yeux étaient ouverts à toute détresse. ses oreilles au cri du cœur de chacun. Il voyait les pécheurs comme perdus et il savait où ils iraient. Et cela l'a affligé, cela l'a ému. Et je crois que si nous pouvions tous être remplis à nouveau de l'amour de Dieu déversé par le Saint-Esprit, être saisis par la grâce de Dieu et être remplis d'Esprit Saint, alors il serait possible que nous ne vivions plus pour nous-mêmes. C'est seulement comme ça que ce sera possible. Mais vivre vraiment pour celui, c'est-à-dire pour lui qui est mort et ressuscité pour nous. Comment cela peut-il se faire en détail? Comment peux-tu, chère sœur, vivre pour toi, pour lui en tant que femme au foyer? Comment pouvons-nous tous vivre pour lui, être là pour lui, être à sa disposition? Si je vis pour une cause, alors je suis là pour cette cause. Je m'engage alors pour elle. C'est alors le but principal et le sens de ma vie. Si je vis pour une chose, c'est la chose dont il s'agit, pas deux ou trois différentes choses en même temps, mais la cause dont il s'agit. Il y a des gens qui disent, je vis dans tel et tel but. Dans quel but avons-nous vécu? Question. Non, nous vivons pour celui qui est mort pour nous, parce qu'il a donné sa vie et son sang pour nous. C'est toute chose qui soit mort et ressuscité. Mais maintenant, de vivre pour celui qui est mort et ressuscité. C'est ça qu'il s'agit. Quelle parole glorieuse ici. Et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent, vous voyez, et non pas tous, pour que tous, car tous n'acceptent pas à la vie n'accèdent pas à la vie éternelle, mais mourir pour toute l'humanité. Il est mort pour toute l'humanité. C'est vrai, mais ce n'est pas toute l'humanité qui accepte le salut. Mais ceux qui l'acceptent et parviennent à la vie, c'est pourquoi il est dit, ce sont ceux-là qui vivent pour lui, ceux qui acceptent et qui parviennent à cette vie par le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il est dit ici, afin que ceux qui vivent, oui, sur terre, tous vivent, mais ils vivent pour eux-mêmes. Or ici, il est dit, ils vivent, et en fait, ils vivent à côté de Dieu, ils n'acceptent pas la grâce. Mais ici, il est dit, au verset 15, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Vous voyez, quelle parole merveilleuse et glorieuse. Ensuite, au verset 17, si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Or, tout cela est l'œuvre de Dieu. Que Dieu confirme cette parole dans ta vie et dans la mienne, comme étant la vérité. Que quelque chose de nouveau puisse avoir été né, ou bien puisse être né en nous, et que cela soit visible là. Le corps est encore là, c'est vrai. Nous le porterons jusqu'à ce que nous soyons changés ou appelés à la maison. Mais dans notre âme, un renouvellement par l'Esprit doit avoir eu lieu. Il est dit ici, au verset 17, si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, bien alors une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et ensuite, la parole merveilleuse encore, au verset 18. Or, tout cela est l'œuvre de Dieu, vient de Dieu. Remarquez-vous que vous et moi ne pouvons rien ajouter, ne pouvons rien faire. Tout cela est l'œuvre de Dieu. Mais nous devons lui permettre d'accomplir son œuvre en nous, de faire en nous ce qui lui est agréable. Nous devons nous mettre à sa disposition pour qu'il puisse faire de sa parole une réalité en nous. Or, tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et nous a confié le ministère de la réconciliation. C'est quelque chose de tout à fait merveilleux, le verset 18. Aussi, celui qui a vécu, qui a expérimenté la réconciliation, qui a reçu la grâce de Dieu, ne peut qu'être reconnaissant pour ce que Dieu a fait. Et nous sommes ici ce soir pour adorer, pour remercier et ce de tout notre cœur pour ce que Dieu a fait. Nous ne pouvons pas remercier pour ce que les hommes ou l'ennemi ont fait. Nous n'en avons pas besoin. mais pour ce que Dieu a fait. Et le psalmiste dit, Dieu a fait de grandes choses pour mon âme. Et si nous lisions le psaume 103, n'oublie pas le bien qu'il t'a fait, ô mon âme. Et il est dit encore ici, au verset 19, 2 Corinthiens 5, verset 19, car Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même, ne leur imputant pas leur transgression, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Déjà, sur la croix à Golgotha, ta transgression et la mienne ont été placées sur lui. C'est là que ta réconciliation et la mienne ont eu lieu. C'est là que ton pardon et le mien ont été accordés par grâce à toi et à moi, et nous pouvons l'accepter. Il a déposé en nous la parole, il a placé en nous la parole de la réconciliation. Et il est dit ensuite au verset 20, c'est donc pour le Christ que nous parlons. Non pas pour nous, mais pour le Christ, pour Christ, comme ses envoyés, puisque c'est par nous que Dieu avertit. C'est par nous que Dieu met en garde. Qui Dieu a-t-il pour parler? De quelle bouche peut-il se servir? Mais seulement la tienne et la mienne. Pensez-vous que quelqu'un parlera aux gens si ce n'est pas toi et si je ne peux pas l'être? Alors peut-être que personne ne leur parlera. Oui, tout le monde peut parler, mais la parole de Dieu et ce que Dieu a à dire aux hommes, seuls ceux à qui Dieu a parlé peuvent le dire et le transmettre aux autres, comme ceux qui ont compris ce que Dieu fait en ce moment, ceux-là qui ont compris ce que Dieu fait maintenant et qui ont reçu sa parole de tout leur cœur. Verset 20, c'est donc pour le Christ que nous parlons comme ses envoyés, puisque c'est par nous que Dieu avertit. C'est pour le Christ que nous demandons, soyez réconciliés avec Dieu. C'est un sermon d'évangélisation, mais ici, il nous fait à tous beaucoup, beaucoup de bien. Celui qui est réconcilié avec Dieu est aussi réconcilié avec les autres. Ceux qui sont réconciliés avec Dieu sont aussi réconciliés les uns avec les autres. Celui que Dieu a pardonné, il a pardonné aussi à tous, à tout le monde, à tout le monde. Il n'y a pas d'exception. Et c'est la grâce que nous portons en nous, un pardon absolu, un pardon total que j'ai reçu et que je peux accorder à tout autre qui, d'une manière ou d'une autre, est coupable à mon égard. Je ne connais personne. Mais si c'était le cas, le pardon et la réconciliation sont dans tous les cœurs qui ont reçu le pardon et la réconciliation de Dieu. C'est vrai, n'est-ce pas? Vous pouvez tous dire amen à cela. Tout homme qui a reçu le pardon et la réconciliation pardonne et réconcilie. Il réconcilie. C'est un cadeau de Dieu. Il ne peut en être autrement. Sur Golgotha, à Golgotha, en Jésus-Christ, notre Seigneur, nous sommes réconciliés avec Dieu. Et Dieu s'est réconcilié avec nous et avons reçu le pardon. Dieu exauce. Dieu avertit à travers nous. Oui, des hommes que Dieu utilise, des gens pécheurs et faibles, misérables et tout le reste. Et pourtant, savez-vous qu'un homme qui est sauvé sait de quoi il parle? Si un ange venait nous prêcher ici, il ne saurait pas de quoi il parlerait, n'est-ce pas? Est-ce vrai, oui ou non? Il faut l'avoir expérimenté soi-même. Il faut avoir été perdu pour savoir ce que cela signifie d'avoir été sauvé. Si les choses ne sont pas là, alors ce n'est pas possible. Dieu dont on parle, c'est pas possible d'en parler. Il faut qu'on les ait expérimentés. Dieu a donc besoin de personnes qui ont été réconciliées avec lui pour offrir la réconciliation divine aux autres et pour en parler avec eux. Dieu a besoin de personnes qui ont vécu le pardon. Dieu utilise des personnes qui ont vécu, qui ont expérimenté le pardon de leurs péchés pour pouvoir dire aux autres que le pardon et la grâce de Dieu sont aussi là pour eux. Dieu utilise la bouche des hommes pour annoncer le précieux message du salut et de la réconciliation. Maintenant, il est dit ici, verset 21, Celui qui n'a point connu le péché, 2 Corinthiens 5, verset 21, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Je suis heureux que la traduction Menge traduit si clairement ce passage. Frère Branham le souligne une fois dans un sermon. Pas seulement que nous soyons rendus justes ou bien déclarés justes ou bien pas seulement que nous ayons été justifiés, mais en quelque sorte, mais une part directe que nous devenions justice de Dieu, la justice de Dieu elle-même. Je le relis. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu, la justice de Dieu. Non seulement justifié par Dieu, mais devenir justice de Dieu en Christ. Aucun homme ne peut le comprendre, mais c'est ainsi, un acquittement total, un pardon total, un salut total pour toute l'éternité, offert par Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et pour cela, nous pouvons être reconnaissants du fond du cœur. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui, pas toi en moi et moi en, pas toi en toi et moi en moi, mais que nous tous, toi et moi, nous soyons en Christ, c'est-à-dire en Christ, devenions la justice de Dieu elle-même. Ça, c'est le salut total. C'est une rédemption totale. C'est le plein évangile dans le vrai sens du terme. Et le plein évangile signifie déjà ce qu'il dit. Rien n'a besoin d'être ajouté. Tout y est contenu par la grâce de Dieu. Puissions-nous en venir à remercier le Seigneur, à déborder de reconnaissance. Et c'est ainsi qu'il nous montre. C'est le chemin qu'il nous montre. En nous, pour nous révéler et nous montrer son salut. Nous pouvons souvent en parler, mais si nous ne commençons pas à remercier et à louer le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous, car il est écrit que c'est précisément en remerciant qu'il nous montre le chemin pour son salut. Si nous commençons à remercier le Seigneur, Dieu nous, il nous ouvrira de plus en plus les yeux sur le plein salut que nous avons en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est le moyen pour lui de nous montrer le salut de Dieu, c'est-à-dire de nous le faire expérimenter. Psaume 50, verset 23. En Christ, nous sommes réconciliés et nous avons reçu la justice de Dieu. Nous avons été déclarés justes et rendus dignes de contempler sa face. À lui, soit la louange et la gloire pour l'éternité. Amen. Je voudrais seulement dire ce qui m'est venu de la parole qui a inondé mon cœur. Il est dit ici, car Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui. J'ai dû réfléchir à cela comme ça. Dieu a parlé à son peuple d'Israël dans l'ancienne alliance et il ne voulait pas qu'ils se perdent, mais il n'a cessé de les avertir à venir à lui, à se tourner vers lui. Il ne prend pas plaisir à la mort, mais il veut que tout homme vive. Et nous voyons ainsi ce qu'il n'est pas resté seulement pour le peuple d'Israël, mais qu'il a préparé ce salut pour toutes les nations en Jésus-Christ notre Seigneur. Je viens d'ouvrir le livre d'Ézéchiel là-dessus, sur ce passage. Il est si merveilleusement écrit à partir du verset 31. Ézéchiel 18, verset 31. Déchargez-vous, rejetez toutes vos transgressions par lesquelles vous avez péché contre moi. Déchargez-vous, rejetez toutes vos transgressions par lesquelles vous avez péché contre moi et faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Car pourquoi voulez-vous mourir, maison d'Israël? C'est une merveilleuse invitation et je pense que la même invitation ne se trouve pas. Est-ce que la même invitation ne se trouve pas dans le Nouveau Testament? La parole ne dit-elle pas que nous devons apporter tous nos soucis, nous se charger sur lui de tous nos péchés, toutes nos détresses et tout au pied de la croix, l'amener? Oui, il est dit ici dans Ézéchiel 18, verset 31. Déchargez-vous, rejetez toutes vos transgressions par lesquelles vous avez péché contre moi et faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Et un cœur nouveau et un esprit nouveau. Car pourquoi voulez-vous mourir, maison d'Israël, chers frères et sœurs? Nous pouvons apporter tout sous la croix, tout déposer. Et nous pouvons dire, celui qui ne le fait pas mourra. Celui qui ne le fait pas, qui ne vient pas sous la croix, il n'y a pas de salut pour lui. Mais que le Seigneur soit loué et remercié de ce que toi et moi avons pu venir sous la croix. Eh bien, nous l'avons déjà entendu, cela semble évangélique, mais il est peut-être nécessaire que Dieu nous parle aussi de cette manière. Peut-être avons-nous reçu tant d'enseignements. Peut-être que cela nous fait du bien ici et que nous en avons besoin. Oui, je ne sais pas pourquoi, mais parfois, c'est comme ça, moi-même. On ne veut pas en parler, ne rien dire, mais moi-même, j'avais été très effrayé cette nuit-là. J'ai fait un songe très, très effrayant et je ne veux pas le dire volontairement. Non, je ne vais pas en parler. Et je me suis réveillé et j'ai juste pensé, mon Dieu, si seulement les gens pouvaient réaliser que c'est peut-être la dernière heure, c'est peut-être le dernier moment où nous sommes appelés. J'ai pensé à moi et aux autres, aux croyants et à ceux qui prétendent l'être. Je me suis dit, sommes-nous prêts réellement? Sommes-nous prêts à partir, à être rappelés quand notre heure sonnera? Ou ne sommes-nous pas prêts? Ou ne sommes-nous pas prêts? C'était très fort dans ce songe. Je me suis réveillé et j'avais été tellement inquiet pour moi. Même, je dois d'abord dire, parce que je devais me dire ou me demander, es-tu au moins prêt? Es-tu prêt? Ça peut arriver à tout moment. Ça peut arriver à tout moment. Mes frères et sœurs, ça peut arriver à tout moment. Ça peut arriver à tout moment. Frères et sœurs, nous pensons que c'est peut-être ainsi que nous vivons et que nous avançons sans réfléchir, en pensant que notre temps est encore tout entier. Nous avons encore tout le temps. Il y a encore qui sait combien de temps. Oh, ce songe, j'avais tellement de choses à me dire. Et tout ce que j'avais à dire, c'était, mon Dieu, aide-moi. Que je sois prêt quand ce sera l'heure d'entrer auprès de toi. Nous avons entendu la parole que Frère Schmitt a lue en introduction. Nous voulons être changés, être revêtus. Tout cela, 2 Corinthiens 5, les premiers versets, oui. Que cela se produise en effet. Et puis, il est encore dit au verset 32, Ézéchiel 18, verset 32, car je ne prends pas plaisir à la mort de celui qui doit mourir. C'est la déclaration de l'Éternel Dieu. Convertissez-vous donc et vous vivrez. C'est ce que Dieu dit dans l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, convertissez-vous, attachez-vous à Dieu, revenez à lui. Revenez à moi, dit-il. Dieu a appelé, pas seulement dans la nouvelle alliance, mais déjà dans l'ancienne alliance. Il reste le même. Et c'est ici ce que nous avons lu. Ce verset a pris une telle ampleur pour moi lorsqu'il a été lu. Car Dieu était en Christ. Ici, dans l'ancienne alliance, c'est Dieu qui a parlé. Et ici, dans la nouvelle alliance, c'est Dieu qui parle. Un et le même. Il n'y en a pas d'autre. Il est le même. Il a parlé dans l'ancienne alliance et il parle dans la nouvelle alliance par notre Seigneur Jésus-Christ. Il est resté le même et il ne prend pas plaisir à la mort de l'homme, mais il veut que nous vivions. Et c'est pour cela qu'il a donné sa vie, qu'il a donné sa grâce. C'est pourquoi il a envoyé son fils Jésus-Christ et a établi la réconciliation. Elle a été établie en effet. Frères et sœurs, c'est une parole merveilleuse. Et si nous lisons tout le chapitre, je l'ai lu aujourd'hui, Ézéchiel 18, il en parle à plusieurs reprises, il n'a pas de complaisance mais à ce que l'homme meure, mais il veut que le peuple se convertisse, qu'il se répande, et s'ils sont tombés, il s'efforce à nouveau à les faire revenir. Voilà ce qu'est Dieu. Il n'est pas comme un homme qui abandonne directement. Vous savez, nous abandonnons facilement. Nous disons, oui, il n'y a pas de salut, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien. Mais avec Dieu, tout est possible. Il n'abandonne personne. Nous avons entendu dire qu'il se... Oui, nous disons si facilement, il n'y a plus de salut pour eux. Ils sont perdus. Dieu n'est pas comme ça. Nous avons entendu dire qu'il se retirera un moment, mais qu'ensuite ils crieront vers lui. Ils se retirent pour qu'ils puissent crier à lui. Alors ils verront et comprendront que sans lui, ils sont perdus. C'est cela, frères et sœurs. Et je pense qu'il ne faut pas, qu'il faut même pas en arriver lâche chez nous, bien mes frères et sœurs, mais que nous devons reconnaître ce soir que nous ne pouvons pas du tout être sans lui. Nous avons de plus en plus besoin de lui. Et c'est là que nous pouvons nous mettre d'accord avec le poète, avec le cantique. J'ai besoin de toi tout le temps. Seigneur, j'ai besoin pleinement de ta grâce. Ton nom est mon refuge, ton sang, ma mère de joie. J'ai besoin de toi. Oui, j'ai besoin de toi. C'est Jésus, oui, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi tout le temps. Je ne sais pas, mais Dieu parle de différentes manières. Je ne prends pas les songes au sérieux, mais vous savez, peut-être que Dieu parle aussi parfois à travers des songes. Et c'était un songe très effrayant, surtout pour moi. J'ai juste dit, mon Dieu, aie pitié de moi. Et j'ai déjà dit que je ne voulais pas le dire, mais j'ai dû pleurer. Je me suis levé et j'ai pleuré devant Dieu. Vous savez, ce n'est pas si simple. Dieu parle peut-être à l'un de cette manière, à l'autre d'une autre manière. Mais notre désir, c'est justement maintenant, alors que tant de choses se passent dans le monde, et chaque jour, nous entendons parler de nouvelles choses et des gens sont soudainement retirés de la vie et ils n'ont aucun espoir. Mais nous, en tant que croyants, nous devrions nous tenir aussi fermement sur lui, être aussi fermement autour de lui, comme nous l'avons lu dimanche après-midi à propos de la ceinture. Et il y est dit encore que le peuple, son peuple doit être ainsi saint autour de lui, être ainsi serré contre lui, être ainsi enroulé autour de lui. Saint, donc avec une ceinture, C-E-I-N-T, autour de lui. C'est cela, il veut que nous soyons si proches de lui, si liés à lui. Oui, ne pas nous éloigner de sa main, mais rester avec lui. Puisse le Seigneur fidèle nous y aider tous. Et nous avons entendu ces précieuses paroles ce soir. Elles ont été données pour nous. Et nous l'avons aussi entendu dans Philippiens. Et là, Paul dit, il dit, ce n'est pas que j'ai déjà saisi, mais je poursuis le but que je me suis fixé. Et c'est ce que j'ai pensé que nous voulions faire, nous aussi. Le poursuivre, lui, le but qu'il nous a fixé, qu'il nous accorde sa grâce. Frère Frank a déjà dit que nous devrions remercier Dieu. En effet, nous avons des raisons de remercier notre Dieu pour la grâce qu'il nous a accordée. Déjà pour le fait que nous puissions toujours venir sous l'écoute de sa parole, que nous puissions venir et adorer. Vous savez, c'est déjà une grâce particulière de ne pas avoir la pensée de dire « Ah, je peux aussi prier ici ou là ou à la maison et ceci. » Vous savez, Dieu veut que nous soyons en communion entre nous et les uns avec les autres et avec lui. Car sous l'écoute de sa parole, nous sommes édifiés, encouragés, avertis, réprimandés, exhortés. Oui, Tout nous est donné sous sa parole et notre foi ne peut être renforcée que si nous sommes assis sous le son de sa parole. Il n'y a pas d'autre moyen. Mais comme le dit l'Écriture, la foi vient de la prédication. Mais si l'on n'est pas assis sous la prédication, sous l'écoute de la prédication, comment peut-on avoir la foi? C'est impossible, ce n'est pas possible. Mais que la louange et le remerciement soient rendus au Seigneur, même si nous ne pouvons le faire que dans la faiblesse, frères et sœurs, mais nous le faisons quand même dans la faiblesse et Dieu se manifestera puissamment à travers cette faiblesse. Et nous croyons que ce soir aussi, il a préparé la bénédiction pour toi et pour moi. Et il nous bénira. Il te bénira, toi, il me bénira, moi, et nous bénira tous ensemble. Souvenons-nous de tous dans la prière. Dieu sait tous. Dieu sait tout, Dieu connaît tout. Il connaît aussi nos intentions, nos requêtes, les tiennes et les miennes. Il sait ce que nous voulons lui apporter. Nous devrions nous lever et prier. Faisons-le. Merci Seigneur pour ta précieuse et sainte parole. Nous savons que ta parole ne revient pas à vide. Elle ne revient pas sans produire l'effet pour lequel tu l'as envoyé. Elle juge ce pourquoi tu l'as envoyé. Elle juge toute pensée. Merci pour cela Seigneur. Merci Seigneur pour chaque parole que nous pouvons lire. Que ce soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, tu as parlé dans l'Ancienne Alliance. Tu as parlé dans la Nouvelle Alliance au Seigneur. Tu parles encore aujourd'hui au Seigneur. Tu n'as pas encore changé. Tu ne changes jamais. Tu es le Sauveur fidèle. Seigneur, nous te prions. Tu nous connais. Nous sommes des êtres humains, Seigneur, en chair et en os. Seigneur, tu connais tout notre être, toute notre vie. Tout est révélé devant toi. Seigneur, tu sais que nous sommes des êtres humains, oublieux et faibles, affligés de défauts. Ô Seigneur, mais tu es celui qui est sans défaut. Seigneur, tu as donné ton sang pour nous. Seigneur, tu as payé un prix pour nous. Qu'il en soit rendu grâce. Qu'il te soit rendu grâce. Que nous puissions te remercier. Et c'est ainsi que nous venons comme nous sommes en ce moment. Ô Seigneur, Seigneur, tu sais que nous sommes des êtres humains. Pardonne-nous nos échecs. Pardonne-moi mes échecs. Pardonne tous les péchés, toutes les transgressions, toutes les erreurs au Seigneur. Seigneur, quand tu viendras, que nous soyons prêts. Seigneur, que nous puissions entrer avec toi dans ta gloire, dans ton royaume, Sauveur. C'est mon désir, Seigneur. C'est ma prière, Seigneur. Bénis-nous tous, ô Dieu. Seigneur, nous t'offrons aussi nous t'apportons nos requêtes, Seigneur, pour notre frère et pour tous les autres, ô Dieu. Tu connais chacun d'eux. Ô Seigneur, tu sais ce qu'il en est de chacun. Tu vois tout, tes yeux parcourent toute la terre, Seigneur, car tu as des yeux comme des flammes de feu, alléluia. Seigneur, tu connais nos motivations, tu connais nos cœurs, tu connais les cœurs de ceux qui sont peut-être à l'agonie. Seigneur, mon Dieu, aie pitié et sois miséricordieux à cause de ton nom. Et nous te prions encore, sauve Seigneur, délivre Seigneur, car tu es le grand médecin, le Sauveur, tu es le libérateur. Gloire à ton nom glorieux. À toi seul revient désormais tout honneur et toute adoration. Alléluia. Gloire à ton nom merveilleux. Continue à être avec nous. Bénis-nous, Seigneur. Bénis-nous aussi ce week-end. Seigneur, bénis-nous. Bénis-nous tous, Seigneur. Bénis nos foyers. Ô Dieu, nos familles. Seigneur, nous te confions tout. Ô Seigneur, tu t'occuperas de tout. Sois loué, sois exalté au nom de Jésus. Amen.